Les carnets du soir, avec l'abbé Denis Veilleux.
Bonsoir. Les carnets du soir vous proposent en première partie « Séjour d'un pèlerin en France ». Il s'agit de lieux de pèlerinage dans la ville de Paris et je me suis rendu au Mont-Saint-Michel. Après la célébration, eh bien, nous avons ramené le gros missel, le lectionnaire. Mon collègue a ramené le calice, les burettes et tout. On a voulu donner un coup de main au sacristain pour qu'il ne soit pas pris avec tout cela. Alors, nous avons quitté la chapelle après avoir fait un temps d'adoration eucharistique. Nous sommes sortis et nous sommes dirigés vers la sacristie et on a déposé les choses, les vêtements liturgiques également. Et là, on a conversé un peu avec lui. Et mon collègue avait remarqué qu'il avait une alliance à son doigt. Alors, il lui a demandé s'il était marié. Il a dit oui. Alors, 4 mois de mariage, ce qui veut dire que je comptais ça. Je me dis, il s'est marié au mois de mai, probablement. Donc, il nous dit « Je suis sacristain » et il nous dit tout de suite « Je ne ferai pas cela toute ma vie parce que je suis doctorant en histoire à la Sorbonne. » Alors c'est un jeune homme qui n'a pas 30 ans à mon avis et il nous dit « C'est un travail alimentaire. » Je n'avais jamais entendu cette expression. C'est un travail alimentaire. Donc il étudie. Mais il faut bien vivre. Alors il est sacristain à Saint-Augustin. Son épouse étudie, elle aussi, en histoire, mais l'histoire du Japon. Et lui, le sujet de sa thèse est assez intriguant, pour ne pas dire original. Il étudie la période dans l'Église entre 1960 et les années qui suivent, les changements de costumes des prêtres et des religieux et religieuses dans l'Église catholique. Alors là, moi je me suis retrouvé dans mon enfance où j'ai étudié avec les sœurs du Bon Pasteur. Alors j'ai revu dans mon esprit le costume des sœurs du Bon Pasteur de mon enfance, qui était le costume de Mère Marie Fitzbach. Ensuite, l'autre qui est arrivé avec une pointe, je le dis avec beaucoup de respect, on appelle ça une petite pyramide. Et ensuite, une sorte de chapeau qui est arrivé à un moment donné. Et là, maintenant, aujourd'hui, je ne sais pas. Alors, il étudie l'évolution des costumes et probablement leur sens depuis 1960 et par la suite, les autres années, cette transition vestimentaire dans le monde clérical et dans le monde religieux. En tout cas, ça peut être intéressant de faire des liens, de découvrir le pourquoi et le comment. Donc, nous allons le laisser, Gilles Arnaud, c'est son nom, nous allons le laisser, le remercier, et nous allons continuer de visiter un petit peu cette église toujours sombre. On voit à l'accueil une personne, d'ailleurs elle est venue nous parler, c'est une dame, elle nous a dit « je fais l'accueil le vendredi ». Elle était souriante, elle était aimable, elle nous a dit qu'elle avait des enfants qui étaient servants d'hôtel, donc des enfants qui, comme on dit chez nous, ce sont des servants de messe, et une dame pas très âgée qui est là, dans un bureau d'accueil dans cette église et qui doit répondre aux questions des gens pour savoir telle ou telle chose, ou des renseignements, ou des informations. Elle est là, une présence. Alors nous avons déambulé dans l'église, et là nous avons vu la situation de ce bâtiment délabré, triste, d'immenses, le mot ne me vient pas pourtant, ce sont des lustres, oui, des lustres qui devaient servir à l'époque où on y posait des chandelles, hein, des chandelles. Donc tout cela est dans l'église, tout cela est en suspens et tout cela est sombre. On continue et je n'ai pas grand-chose à ajouter, je dois vous l'avouer, sinon que nous allons voir une statue du Padre Pio de Sainte Thérèse. On voit toujours une statue de Sainte Thérèse dans toutes les églises de France. On voit aussi quelques photos de Saint Jean-Paul II, de Sainte Mère Thérésa et d'une autre sainte dont j'oublie le nom, mais j'ai quand même lu l'histoire, c'est une Italienne. Et son histoire est touchante parce qu'elle est enceinte et elle a un fibrome à l'utérus, quelque chose de difficile. Et comme elle est enceinte, elle demande au médecin de préserver le plus possible cette grossesse. Donc, elle va vivre la grossesse, il n'y a pas d'opération, et lorsqu'elle met l'enfant au monde, avant de mettre l'enfant au monde, elle dit explicitement ses volontés. S'il y a un choix à faire entre l'enfant et moi, je vous dis tout de suite, vous sauvez l'enfant. Moi, je suis prête à partir. Vous sauvez l'enfant. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Et plusieurs années après, l'Église l'a reconnue sainte. C'est une sainte. C'est une maman qui a donné sa vie pour son enfant. Toutes les mamans donnent leur vie pour leurs enfants, je pense, d'une certaine façon. Mais elle l'a donnée de cette manière. Et de cette manière, elle est morte en disant « Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. » C'est une sainte italienne. Pardonnez-moi d'oublier le nom, mais je l'ai ici, oui. Sœur Sainte Beretta. Sainte Beretta. Je ne la connaissais pas, mais j'ai été touché par cette histoire. Alors nous allons quitter l'église Saint-Augustin avec tous ces souvenirs, tout ce que nous avons vécu là, les personnes rencontrées. Et encore là, je remercie le Seigneur d'avoir rencontré des gens qui nous accueillent. Nous arrivons comme un cheveu sur la soupe, ou dans la soupe, je ne sais pas, mais on arrive à l'improviste et on demande à célébrer la messe et on est toujours accueilli et on est toujours, en tout cas, je me dis reçu avec cordialité. Nous allons quitter l'église Saint-Augustin, descendre les marches et nous diriger vers une autre église qui n'est pas tellement loin et qui s'appelle Saint-Louis-d'Antin. Je vous situe dans Paris un peu. Je ne sais pas si vous connaissez la gare Saint-Lazare. Alors, nous sommes dans le secteur de la gare Saint-Lazare, donc de la rue Saint-Lazare. Nous sommes dans le quartier qui est connexe avec l'Opéra, les grands magasins Lafayette, ces grands magasins. Et c'est une gare qui est névralgique dans la ville de Paris. Il y a la gare du Nord à Paris, qui est comme ça, qui est un point névralgique, mais là, nous sommes à Saint-Lazare. C'est un autre lieu. Donc, arrivent là les trains, en provenance de probablement toutes les régions de la France, alors, qui convergent à Saint-Lazare. Et là, c'est un spaghetti de métro aussi que nous avons en profondeur. C'est quelque chose d'assez impressionnant. Donc, ce qui veut dire que ce sont des milliers, des milliers, des milliers de personnes tous les jours qui transitent par la gare Saint-Lazare. Il y a deux pôles. Il y a un pôle où nous voyons des valises comme emblème d'une certaine manière, où nous, on va appeler ça des petites montres, mais les Français appellent ça des pendules. Je me rappelle un jour, il y a très longtemps, j'avais connu à Jérusalem une Française qui m'avait dit « J'aimerais vous revoir ». Alors je l'avais revue à Paris lors de mon passage et elle m'avait dit « Je vous donne rendez-vous devant la gare Saint-Lazare et devant les pendules ». Vous imaginez dans ma tête de Québécois, il y a plus de 35 ans, une pendule pour moi, ben c'est une histoire d'horloge avec ce qui se passe à l'intérieur. Hein. C'est ça la pendule. Alors je cherche, je ne trouve pas. Et lorsque la personne me trouve, elle va me trouver, et je lui demande, mais où est la pendule? Mais elle dit, mais regardez! Alors c'est un ensemble de montres, hein, de petites montres, comme d'un côté on a les valises, plusieurs valises, et bien là on a des montres. Donc on voit bien que la gare est là pour voyager, des valises, mais les trains partent à l'heure. Et les trains arrivent à l'heure. Alors, il faut avoir les deux composantes pour voyager. Il faut savoir l'heure où le train part, où le train arrive, et avoir tout au moins quelque chose si nous voulons voyager avec, quelques éléments, une valise ou un sac à dos ou autre chose pour transporter ce que l'on veut. Donc, nous sommes dans ce quartier, la gare Saint-Lazare, et se trouve là une église qui s'appelle Saint-Louis-d'Antin. L'église Saint-Louis-d'Antin, elle est fréquentée par les gens qui arrivent de différents milieux et qui vont prier. C'est une église où, tous les jours, à mon avis, il doit y avoir une dizaine de célébrations de la messe et les confessions.
Les carnets du soir se poursuivent en ouvrant un autre volet. Vous entendrez l'intégralité des 13 monologues que j'ai écrits sur des personnages fictifs ayant vécu autour de 60 ans après Jésus-Christ. Chaque personnage est en lien avec les évangiles ou lettres de saint Paul. Et pour commencer ce soir, la rose bleue, 60 ans après Jésus-Christ, 13 pétales que j'ai écrits, dans le rôle du petit enfant, Lucien Ratio, sous la direction de Jacques Leblanc.
La rose bleue, 60 ans après Jésus-Christ, 13 pétales. Texte, Denis Veilleux. Aujourd'hui, le petit enfant. Narration, Lucien Ratio.
Je suis en prison. C'est vrai. J'entends des bruits tout en haut, mais je ne vois presque rien tant l'éclairage fait défaut ici. Les Romains se vantent qu'ils ont les meilleures tanières au monde et nous sommes comme des renards qui ne flairent plus rien. Depuis combien de temps est-ce que je croupis ici? Je ne sais trop. Plusieurs lunes me séparent de la lumière du jour. Vous voulez savoir qui me vaut cette peine? Je vous le dirai plus tard, sinon vous ne m'écouterez pas. J'ai trouvé un moyen de m'éclipser chaque jour de ma sombre prison. Je viens d'un peuple qui m'a transmis son or, la mémoire. Quand j'étais gamin, mon grand-père me disait « Souviens-toi, mon petit, que nous étions bien bas dans cette Égypte de sable » et que le Dieu des armées nous a pris à bras le corps en nous faisant traverser la mer comme on laboure un champ. Ces paroles sont restées gravées comme ça dans ma tête d'enfant, et je ne les ai jamais oubliées. Quand il est devenu vieux, c'est lui, mon grand-père, qui ne se souvenait plus. La nuit, il m'éveillait par ses cris comme s'il guerroyait dans les steppes. Je m'endormais dans la peur. Le lendemain, il ne se rappelait de rien et moi, de tout. C'est donc avec l'or de ma mémoire que je quitte cette prison et que je retrouve mon souffle. Je respire mal ici. La suie me colle aux narines. Qu'est-ce que je cherche en voulant me rappeler ? Le bonheur. Il est un souvenir de mon enfance que j'aime ressasser comme le meilleur des grains dans la passoire. Je ne vous l'ai pas dit, mais je viens de Bethsaïde. On peut y voir la mer, si belle au loin. Nous étions plusieurs gamins sur la place quand un jour, nos jeux ont été interrompus par des bruits venant du port où s'activaient les pêcheurs. Aussitôt, ma mère m'a crié de rentrer à la maison. D'ailleurs, c'est ce que font toutes les mères au moindre bruit de foule. Ces coups de marée ne les rassurent pas. Moi, j'ai couru vers maman en tenant la main de Sarah, ma petite sœur. Je devais avoir 5 ans, elle 3. Puis, sur le seuil de la porte, collés que nous étions au ventre de notre mère, des mots nous sont arrivés tout droit au cœur. Le prophète Capharnaüm venait d'accoster d'une barque avec ses amis. Tous des hommes aux bons bras, certains plus carrés que les autres. Allait-il se rendre jusque dans le village près de nos maisons de pierre? Nous les guettions tous des yeux, grands comme petits. C'est alors que mon cousin Urias, âgé d'une 12 ans, est venu nous annoncer que le prophète montait doucement vers la place et qu'il était maintenant entouré par une foule grandissante. Nous autres, les petits, nous souhaitions nous détacher pour l'apercevoir, mais nos mères nous retenaient fermement sur leur ventre. C'est là que j'ai supplié la mienne. Il ne viendra ici qu'une fois, maman. Après, nous ne pourrons plus jamais le voir. Elle m'a serré contre elle, puis s'est adressée aux autres femmes. Allons-nous rester comme ça encore longtemps sur le seuil de nos portes ou derrière nos fenêtres? Les femmes n'ont pas bougé. Cela n'a pas empêché ma mère de nous prendre, ma sœur et moi, et de nous amener doucement vers la place en tirant le cou pour mieux voir de loin les hommes qui s'avançaient. Leurs pieds faisaient lever plein de poussière, ai-je fait remarquer à ma mère. Petit, nous sentons davantage la poussière. Elle est à notre hauteur. Puis, du fond d'une maison, une vieille a demandé d'une voix criarde qu'on l'emmène voir le prophète. Les femmes se sont mises à maugréer contre elle en tenant toujours leurs enfants sur le seuil des portes. Maman nous a pourtant laissés tous les deux comme deux petites poules et est allée trouver la vieille pour répondre à sa demande. Toutes les voisines se sont alors tenues aux aguets. Ma sœur et moi sommes restées seules devant la maison. Lorsqu'elle a été enfin dehors, la vieille a toisé les femmes autour d'elle et leur a dit « Mais vous pourriez emmener vos petits pour qu'ils les touchent au moins. » Après un moment d'hésitation, il s'est produit chez les mamans comme une libération de toutes les peurs. Elles ont pris leurs petits et les ont amenés devant le cortège des grands hommes qui montaient toujours. Je me rappelle très bien que lorsque j'ai vu le prophète, qui depuis avait fini par distancier les grandes personnes, je me suis échappé tout seul dans sa direction pour lui sauter au cou. Ma petite sœur me suivait tant bien que mal, tandis que les autres enfants ont commencé à m'imiter. Malgré mon jeune âge, j'ai compris qu'il y avait un énorme bonheur sur la place. Tout à coup, une main vigoureuse m'a saisi par le bras et j'ai roulé dans la poussière. Les grands hommes, tels des soldats, se sont mis à nous repousser sans égard et ont crié à nos mères de nous faire rentrer à la maison. Me voyant par terre, le prophète n'a pas perdu une seconde et est venu me chercher. Il avait le visage blanc de colère. J'avais peur, mais il me gardait dans ses bras. Je me suis senti à nouveau en sécurité. Les mères ont aussitôt hué les hommes qui accompagnaient le prophète, et celui-ci s'est dressé devant eux comme un mur pour leur dire
« Mais quelle est cette bagarre de fous ?»
Déconcertés, ses amis ont figé comme du sel. Puis, il m'a hissé sur ses épaules et a poursuivi sur sa lancée.
« Vous ne comprenez pas que je dois être en dessous pour les faire monter ? »
celui qui m'avait pris le bras pour m'empêcher de toucher au prophète, a voulu se justifier. Si on veut être de retour avant le milieu du jour, les gamins sont de trop. Sa remarque a fait fulminer le prophète qui a répliqué à l'intention de tous
« Vos habitudes vous trahissent. Sachez que ces enfants ne sont pas des poissons qu'il vous faut emprisonner dans vos filets. »
Soudain, la vieille femme que maman avait installée de tout son long étendu sur la place s'est mise à bouger et a commencé à parler pour qu'on l'entende. J'étais toujours dans les bras du prophète, dont je regardais tour à tour les yeux, les joues et la barbe. Je le trouvais tellement beau et jeune, comme mon papa. Le sentant mécontent d'eux, certains de ses amis ont entrepris de faire demi-tour. Il les a rappelés et les a sermonnés sur un ton que je n'oublierai jamais.
« Chaque fois que vous ferez un mur de poussière entre les petits-enfants et moi, vous perdrez votre vie. Venez plutôt avec moi écouter ce que cette femme veut nous dire. »
Tous se sont alors approchés au point où femmes, enfants, petits, grands, étrangers ont bientôt encerclé la vieille. Le prophète m'a déposé près d'elle et après m'avoir embrassé sur la tête, il s'est penché pour être à sa portée. Elle lui a dit « Je suis la grand-mère de Simon et d'André. Je me demande où ils sont passés. » « Tu devrais le savoir, » a répondu le prophète. « Ils ne sont pas avec toi, » a-t-elle insisté. C'est alors que le plus jeune des hommes qui l'accompagnait s'est avancé avec cette information. « Rabbi, ils sont en mer depuis cette nuit. » À ces mots, j'ai compris que les hommes dont il parlait étaient de notre ville, mais vivaient à Capharnaüm. Ils venaient souvent du côté de Bethsaïde en barque. Quand ils étaient de passage, leurs enfants les accompagnaient parfois et nous jouions ensemble. Enfin, les mères se sont décidées à lui demander de bénir leurs petits. Nous sommes tous allés vers lui et il ne nous a pas repoussés. Il s'est assis pour de bon et a placé ses mains sur nos têtes en nous embrassant. La joie était revenue, pour nous et pour lui aussi. Il nous a demandé notre nom dans un grand sourire. Noah, Rebecca, Shoshana, Saül et moi, Jacob. Un de ceux qui nous avait barré chemin l'a interrogé sur un ton de reproche. « Quelle histoire es-tu en train de raconter à ces gamins qui ne distinguent ni leur gauche de leur droite ?» Le prophète s'est levé comme le silence devant la parole. Il a regardé l'homme qui venait de lui poser la question et lui a souri. L'autre a été gagné par une sorte de gêne. Le prophète l'a pris par la main et l'a amené au milieu de la place. Nous l'avons tous suivi. Puis, il s'est mis à raconter « Il était une fois des mains. Il y avait les folles qui se transformaient en poings et brisaient les rochers, mais il y avait les douces qui chantaient comme le vent sur la mer. Les enfants seront toujours comme les jeunes vagues sur le bord de la rive à chercher nos pieds nus. Ils sont la douceur de nos matins, qu'ils crient, pleurent, rient ou se bousculent. « Toi, je t'ai pris par la main pour faire remonter de ta barque le petit que tu as cessé d'être. Les enfants sont mes jumeaux et jumelles, et toi, mon ami. » Spontanément, les enfants se sont exclamés « Nous aussi, nous voulons que tu sois notre ami, mon ami, mon ami !» Toutes ces petites bouches qui parlaient faisaient comme une chanson. Plusieurs grands ont laissé savoir que c'était beau de nous entendre. Et ils se sont penchés devant le prophète qui, de nouveau, s'était assis pour nous prendre dans ses bras. Il était devenu pour nous une montagne sur laquelle nous trouvions l'amour. Une maman s'est approchée et a mis son enfant dans ses bras. C'était notre voisine, dont le petit garçon n'avait jamais prononcé un mot. Il y avait sûrement du miracle dans l'air, puisqu'à la stupéfaction de tous, il est sorti du gosier du petit comme un gazouillement d'oiseau. Ébahi, les mères pleuraient et riaient en même temps, et, les voyant ainsi, nous aussi nous avons commencé à rire et à pleurer. C'était comme ça. Plus tard, bien des années après, j'ai reconnu le plus jeune des hommes qui entouraient le prophète. Il disait qu'il avait vu mourir sur une croix à Jérusalem. Moi, j'étais tout oreille. J'écoutais, étonné de l'entendre affirmer dans le même souffle quelque chose qui m'a paru une folie. Quelques jours après sa mort, le prophète s'était levé de sa tombe. On le disait de nouveau vivant. Encore aujourd'hui, elle continue de me trotter dans la tête, cette histoire. Ah oui, vous aimeriez à présent apprendre ce qui m'a valu cette prison ? Si je vous l'avais révélé au départ, vous ne m'auriez pas écouté tant mon histoire est banale dans un monde où l'ordre frappe aveuglément. Comme bien d'autres de mes pareils, j'ai été victime d'une vulgaire méprise. Alors que je passais par la place du marché, j'ai été entraîné malgré moi dans une course. Cette bousculade finie, on m'a retrouvé sous les tables renversées et quelqu'un s'est mis à m'accuser d'avoir volé je ne sais quoi. Et là, ils m'ont tous picoré. Ici, j'ai beau dire à mes gardiens ou à mes compagnons que je n'ai rien fait de mal. Certains me croient, d'autres non. Ceux-là ont pour moi des phrases assassines du genre « Qui sème le vent récolte la tempête ». Moi, la parole qui me vient pour sortir de leurs griffes me vient de mon grand-père qui m'a initié à la Torah. Leurs chevaux ne donnent pas la victoire. Je pense que ma sœur et mes neveux ont dû me chercher un peu partout. J'étais que de passage à Jérusalem. Il ne leur est jamais venu à l'idée que je puisse me trouver ici, dans cette prison. Sans doute croient-ils que j'ai été victime de brigands. Ils n'ont pas tout à fait tort.
Vous venez d'entendre « Le petit enfant », la première d'une série de 13 émissions intitulée « La rose bleue, 60 ans après Jésus-Christ, 13 pétales », texte et musique, Denis Veilleux, narration, Lucien Ratio, à la technique, Yannick Caron, réalisation, Jacques Leblanc.